Tout d'abord, donc, au nom de l'Église, je tiens à remercier Toby. On va pas dire c'est une première, mais pour la plupart, c'est une première. C'est la deuxième fois. Et c'est vraiment une joie que de t'écouter, t'entendre. Voilà, je tiens à le dire à titre personnel et j'espère que ce sera au nom des frères et sœurs de l'Église. Que ça continue. Ça n'empêche pas qu'on remercie nos revenants. Vous connaissez les Néerlandais qui sont revenus parmi nous maintenant. Nous tenons à remercier aussi pour la musique. Nous sommes ravis. Toby, tu as parlé d'innovation, mais je suis ravi que cette innovation soit un retour en arrière. L'innovation pour les enfants à travers l'enseignement, je n'ai rien fait, que j'ai repris ce qui se faisait normalement dans des églises en France ou ailleurs. Et là, j'ai pris l'exemple de l'église en Écosse avec le rassemblement Winchester. C'est des missionnaires, c'est des hommes, des femmes de Dieu qui se réunissaient. Ils ont dit, comment on va transmettre un enseignement à nos enfants? Ils sont arrivés à dire, bah, tiens, à chaque fois une rencontre, on pose une question. Et on va essayer de trouver la réponse dans la parole de Dieu, humblement, modestement, mais en s'adressant à des enfants. Oui. Donc, je suis d'accord pour cette définition d'innovation, de reprendre ce qui existe déjà, y compris dans la parole de Dieu. L'innovation aujourd'hui qu'on aura, c'est qu'on va faire un retour en arrière. C'est-à-dire, on va reprendre ce qui est écrit, ce qui est enseigné, et ce que nous devons enseigner dans l'Église, c'est-à-dire un enseignement central qui n'est rien d'autre que c'était dit d'une manière différente, mais non prononcée, mais ça revient à la même chose, c'est la prédication de la croix. Vous voyez ? Je suis d'accord que ce soit une innovation vivante qui nous ramène à ce qui n'est pas une innovation, en fait. C'est quelque chose que le Seigneur nous impose dans la vie de l'Église. Et je dirais même plus, depuis la création du monde, la croix est présente comme acte central de la création. Ce n'est pas seulement une solution. Tout passe par cet acte, je dirais, de mort-résurrection. Destruction-reconstruction. C'est un principe inhérent à la nature. Même. Et c'est comme ça, on a parlé de l'or. Pour avoir de l'or, il faut quand même, il y a une combustion, il y a quelque chose qui chauffe, il y a quand même, on sépare pour qu'il y ait quelque chose de pur. À chaque fois, la croix, le message même de la croix est présent dans la création. Même le jour, il faut laisser passer la nuit pour arriver au jour. Oui, on peut tourner dans tous les sens, ce principe est indispensable à la nature même, à la création. Et c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Aujourd'hui, ça tombe bien, le message que j'ai envie que nous partageons, que nous allons partager ensemble, c'est le scandale de la croix. Parce que la croix, dans la parole de Dieu, c'est un scandale pour ceux qui ne croient pas. La croix est combattue dans ce monde. On veut accepter tout, mais mettons la croix de côté. Et je pense aux réunions, donc je parlais avec Toby sur l'écuménisme, les réunions que j'assistais il y a quelques années, on faisait tout pour trouver un point commun. On met la croix de côté. Comme ça, on va se mettre d'accord. Mais si on enlève ce qui fait la centralité de notre communion avec Dieu, il n'y a plus rien. Alors, je vais vous lire un premier passage. Un premier passage dans la Bible. Il s'est arrêté. Et maintenant, ça reprend. Il ne fallait pas toucher.
Non, je ne voyais pas le voyant rouge.
Bien, ce n'est pas grave. Non, non. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est le scandale de la croix. Et nous allons lire deux passages. Le premier passage, c'est dans Galates, chapitre 5, verset 11. « Mais moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ?» Alors, le scandale de la croix est anéanti. L'apôtre nous dit, si je prêche aujourd'hui la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Si je me contente seulement de vous enseigner les rudiments du judaïsme, normalement, je ne dois pas être persécuté. Si je suis persécuté, c'est pour autre chose. C'est que je prêche la croix. Je voulais un autre passage, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 23. 1 Corinthiens 1, 18 à 23. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce monde, de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. La prédication de la croix, bien entendu. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Voilà nos passages s'agissant de la croix. Alors le verset dans Galates où suggère que si l'apôtre Paul, notre frère, Saint Paul, avait seulement continué à annoncer la circoncision, normalement, il ne doit pas y avoir de problème. On est dans les habitudes du judaïsme. Il aurait pu éviter la persécution et être libéré de l'inévitable scandale généré par le message de la croix. Cette croix a coûté la vie à plusieurs hommes et femmes de Dieu. Il est évident que, quel que soit le lieu où la croix du Seigneur Jésus a été annoncée, nous pouvons prendre, il suffit de lire là, les Actes des Apôtres, cette croix, quand elle est annoncée avec fidélité, c'est-à-dire que les personnes qui prêchent la croix doivent tendre vers cette réalité, au moins leur cœur s'ouvre à ce que cette vie, cette croix soit la leur, d'une manière progressive, cela n'a pas amené que de l'espérance et une vie nouvelle. Certes, ça a amené l'espérance et une vie nouvelle. C'est une partie de la croix. Cette prédication de la croix a amené autre chose. Elle a apporté aussi beaucoup de troubles. Elle a amené beaucoup de souffrances. Elle a amené beaucoup de remises en question. Où que ce message soit annoncé, il a provoqué ce qu'on appelle l'antagonisme, l'opposition entre deux principes, entre deux réalités. Elle remet en question les choses d'une manière radicale. Comme ce message était une pierre d'achoppement aux Juifs de l'époque, et une absurdité pour les Grecs, les philosophes qui utilisaient leur capacité cérébrale en remettant en question cette philosophie et ce message un peu, on va dire, à vivre sur une autre planète. Ce message a demeuré depuis ce jour, même de nos jours, inacceptable dans le monde. Il suffit d'aller dans la rue et commencer à parler de la croix, vous allez avoir la réaction. Les plus gentils nous traiteront de fous. Off, illuminé. Mais ça peut aller plus loin jusqu'au rejet, voire ça peut être plus dur. C'est inacceptable, non seulement pour les non-croyants, mais malheureusement, même dans le milieu religieux. Parlez-nous de tout, mais cette croix qui me remet en question, mettez-la de côté. Si la croix c'est ça, ça me demande des sacrifices, est-ce que Dieu m'aime? Où est-ce qu'il y a l'amour de Dieu? C'est quand vous me parlez d'eux. Vous voyez? D'accord. Même dans le milieu religieux, on peut remettre en question cela. Cela est vrai malgré le fait que la croix est le symbole le plus populaire pourtant de nos jours, de l'histoire. Il n'existe pratiquement aucune ville dans la chrétienté où l'architecture, les galeries d'art, la collection de littérature, les symboles, on voit la croix. On voit la croix partout. Il est donc regrettable, mais vraiment regrettable, et je le dis du fond du cœur, depuis une trentaine d'années que je suis chrétien. Il est regrettable qu'autant de prédications et d'enseignements de l'Église chrétienne se limitent au Jésus de l'histoire. On nous fait des prédications sur l'histoire de la Bible, sur tout ce que nous voulons, mais jamais, je vais enlever le mot jamais, et est-ce que c'est tiré de cette croix du Seigneur? tout ce qui n'est pas le fruit de la croix, je dirais, est à côté de la cible. Parce que tout doit tirer sa source de la croix, de Jésus crucifié, ressuscité. On nous présente un Christ aimant l'Église, certes, mais souvent un Christ sans croix. Quand je regarde la religion, comme le catholicisme, ou d'autres religions, je dirais chrétiennes, si on me présente Christ sans croix, je crois que la foi chrétienne perd de sa consistance. Malgré cela, le message consistant de toute la Bible est que la croix est l'instrument. Et l'instrument est l'unique instrument de Dieu pour le salut. Il en est sans moyen unique et pleinement suffisant. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Et en même temps, je dirais, nous n'avons besoin que de ça. Et c'est indispensable, la croix, dans notre vie. La Bible parle de la croix à travers des images dans l'Ancien Testament. Je peux vous en citer plein, mais quelques exemples. L'arbre de vie, c'est la croix du Seigneur. L'arbre de vie, la croix du Seigneur. Et un homme de Dieu inspiré avait dit que si on traduisait l'arbre de vie en se référant à l'hébreu, il a traduit l'arbre de vie. Le bois où l'accusé est attaché, d'où sort la vie. Voilà la traduction qu'il a donnée. La croix était déjà prête. Il était là, dans le jardin de l'arbre de vie. Et en plus, il est central. La mer rouge, c'est le sens et la signification de la croix. L'ancien monde, nouveau monde. L'agneau pascal, une annonce de la croix du Seigneur. L'arche de Noé, l'ancien monde, le nouveau monde, c'est la croix. Jonas, dans le ventre du poisson, c'est l'annonce de la croix. Vous voyez, on peut citer tellement d'exemples dans l'Ancien Testament où cette croix est déjà présente, annoncée, mais sera concrétisée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est tout aussi clair que cela a été le message béni de Dieu pour le salut des hommes. Il prédominait au temps du Nouveau Testament. Et le recouvrement et la remise en valeur de ces aspects essentiels et vitaux, de cette croix, ont provoqué certains mouvements caractérisés par des noms que vous connaissez à travers les réveils. C'est à travers cette épreuve de la croix ancrée dans la vie des hommes et des femmes de Dieu qu'il y a eu les Wesley, les Moody, les Super John, les Austin Sparks, les Watchman Nee, les sœurs Penn Lewis. Oui, si je dois m'intéresser à l'époque contemporaine. Tous ces gens-là, tous ces frères et sœurs, sont passés un moment de leur vie par cette croix, qui l'ont accompagné par la suite dans toute leur vie. Il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de vie chrétienne si la croix ne fait pas son œuvre en nous. Nous devons comprendre, mais ça d'une manière radicale, comme si c'était, je respire, comme l'oxygène. La croix, sans la croix, nous ne pouvons pas avancer dans notre vie chrétienne. Même le réveil dans les Cévennes, en France cette fois-ci. Nous sommes au début du 19e siècle, 1820. C'est la croix et cette remise en question des chrétiens avec cette conviction de péché et cette repentance qui a permis que le Seigneur visite son peuple dans les Cévennes, on est au début du 19e siècle, en France. La croix a toujours été la source de troubles et de scandales. Aucune place n'est accordée au côté héroïque, esthétique de la croix. Le sacrifice, la souffrance, la dévotion dénuée de tout égoïsme, le service sacrificiel pour le bien des autres, le fait d'endurer le tort, même si nous pensons avoir raison, ce sont quelques exemples des fruits de la croix. Mais la croix va plus loin. La plus profonde signification de la croix qu'on donne la Bible, c'est celle qui provoque l'opposition des hommes. On va en examiner trois. Trois exemples de l'œuvre accomplie par la croix. Tout d'abord, la première, la croix condamne le monde. La Bible nous dit, nous sommes dans le monde, mais je ne suis plus du monde. En la croix, Christ a créé un grand gouffre entre l'ancien monde et le nouveau monde. Un gouffre qui ne peut pas être comblé. Il ne faut pas chercher un compromis. Nous sommes, vous et moi, nous sommes des êtres humains, nous sommes faibles. Nous avons cette tendance, et moi le premier, vers ce compromis. Et bien la croix, il est là pour nous rappeler. Il n'y a pas de compromis possible. La Bible appelle ça la tiédeur. Deux systèmes distinctement différents. Deux échelles de valeur. Deux critères de jugement. Deux codes de loi se tiennent en contraste total de chaque côté de la croix. Chaque système n'est pas seulement entièrement différent l'un de l'autre, mais ils sont irréconciliables. On ne peut pas les réconcilier. Et ils sont antagonistes. Deux mondes différents. La croix exige, en ce qui concerne les intérêts et les objectifs, les relations et les ressources, une distinction radicale, absolue. Elle impose la distinction, et je n'ai pas dit la séparation ou la guerre, la distinction, il faut juste savoir que la distinction entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas, entre les vivants et les morts. L'apôtre Paul a dit que par la croix, dans Galates 6,14, l'apôtre Paul a dit, par la croix, le monde m'est crucifié, et moi, au monde. C'est radical. C'est pas un petit peu, c'est fait. Radical. La parole de Dieu déclare sans ambiguïté, aucune, que ce siècle est mauvais, et que le monde entier gît dans le méchant. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Gît, ça veut dire avec le règne du diable. Ignorer cela, c'est quand même, je dirais, ignorer une réalité existante. Elle dit aussi que les voies du monde, ainsi que ses motivations, ses buts, ses idées, imaginations, sont tous opposées à Dieu. Elle assure également que le monde est rendu totalement incapable de recevoir la révélation de la pensée divine, de ressembler à l'image de Dieu, de jouir et d'apprécier une vraie communion avec Dieu, ou même d'être investi des privilèges de coopération avec Dieu. Le monde a été jugé. De telles capacités et relations n'appartiennent qu'à ceux dont la nouvelle naissance les a délivrés de ce monde. Il est compréhensible que le monde trouve la condamnation de la croix inacceptable. Et il est à craindre que la présence de mondanité, ou ce que j'appelle de familiarité spirituelle, dans la vie chrétienne individuelle et dans l'Église, ne soit directement en contradiction avec les buts essentiels de la croix. Nous sommes dans un monde, même les chrétiens, je parle moi le premier, où nous avons une certaine familiarité même dans la foi chrétienne quand on parle de notre Seigneur. Comment peut-on, peut-être c'est mes origines qui sont en train de parler, comment peut-être parler du Seigneur comme mon ami? Vous voyez, c'est quelque chose qui me choque. Ou comme mon pote, je ne sais pas quoi, je l'ai entendu dans le milieu chrétien, c'est mon pote, le Christ. Mais on est dans quel monde? La familiarité chrétienne. On évoque la parole de Dieu comme quelque chose, je lis un Bible normal. Les chrétiens tremblaient devant le mot de Dieu. Les juifs ne n'osent même pas parler, prononcer le mot Dieu. Quand ils arrivent dans la lecture de la Bible, ils le montrent juste avec un doigt, de crainte de le fait de prononcer le mot Dieu. Je leur ai dit déjà des lettres de l'alphabet. Et nous, on trouve une familiarité, on peut parler. Dieu à quelque part juger le monde. J'entendais dernièrement, quand j'emmène les enfants au sport, à Saint-Sernin, je me mets à écouter des prédications et j'ai écouté le frère Jean-Marc Taubois. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué, mais terriblement marqué. J'en ai parlé à Viviane en rentrant. Il a dit, on est dans ce que nous vivons actuellement, mais c'est les pires des abominations que le monde peut vivre. Il a dit que ce que vivait Sodome, c'est rien. Et il a dit, si aujourd'hui, si Dieu ne juge pas ce monde-là, là, aujourd'hui, si nous ne rejetons pas ce qui se passe dans le monde, il faut qu'il ressuscite Sodome. Vous voyez ? À ce point-là. Et pourtant, nous sommes dans le compromis, dans le monde, et nous acceptons. C'est normal. Ceux qui le suivent doivent accepter ce verdict et devront en conséquence souffrir du scandale de la croix. Il faut qu'ils croient à ce qu'il a fait le Seigneur, mais qu'ils ouvrent dans la prière. Nous devons nous adresser à notre Créateur dans la prière, lui dire « Seigneur, nous voulons vivre la croix, pas seulement être spectateur, être acteur. » Et là, le Seigneur nous fera cheminer dans cette croix, mais c'est un prix à payer. La croix condamne le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous n'avons pas à nous retirer de ce monde. Nous sommes appelés à apporter, comme il a dit Toby, ce parfum dans le monde. Le parfum, nous ne pourrons pas le fabriquer, mais ce parfum, c'est rien d'autre que Christ. Et comme il l'a dit Toby, le parfum, ça, comme l'encens, il faut le brûler. Il faut qu'il y ait un sacrifice, il n'y a qu'une offrande. C'est la croix, c'est le message de la croix qui doit nous accompagner pour porter, diffuser ce parfum. Le deuxième enseignement, je dirais, effet de cette croix, la croix crucifie la chair. La croix crucifie la chair. La parole de Dieu déclare que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Romains chapitre 6, verset 6. Et que un est mort pour tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour tous. Pour eux. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. En ce qui concerne Dieu, la race déchue s'est terminée au calvaire. La race déchue est terminée au calvaire. L'ancien Adam jusqu'au calvaire, jusqu'à la croix. Et c'est une nouvelle création qui a commencé par la résurrection, par son ascension et par l'Esprit, par la première Église née à la Pentecôte. À partir de ce point, l'attention tout entière de Dieu a été pour la nouvelle création. Il n'y a aucune utilité à ce que nous essayons d'apporter quoi que ce soit dans l'ancienne création, dans la nouvelle. De l'ancienne création à la nouvelle. Nous voulons garder de l'ancienne création dans la nouvelle. C'est ce que la Bible appelle le compromis. Ça ne peut pas arriver du jour au lendemain, la Bible nous dit. Mais c'est un cheminement. D'abord, accepter mourir à soi-même, je porte ma croix. Et là, je suis dépouillé petit à petit de mon ancienne nature pour laisser la place à la nouvelle nature d'une manière progressive. Certainement pas totalement, tant qu'on est dans ce corps-là, nous ne pourrons jamais atteindre cette perfection. Mais elle se terminera par la dernière métamorphose quand on aura quitté ce corps. Il n'y a aucune utilité à ce que nous essayons d'apporter quoi que ce soit de l'ancienne création dans la nouvelle, car Dieu ne l'acceptera pas. Nos capacités humaines, ainsi que nos infirmités, ce que nous appelons notre bon côté, ainsi ce que nous reconnaissons comme étant notre plus mauvais côté, notre bonté, ainsi que notre méchanceté, oui, les deux à chaque fois, tout a été inclus dans la mort du Christ. Ne faisons pas de sélection. Ne disons pas que Christ a seulement crucifié ce qui est mauvais en moi. Non, il a même crucifié le bon côté. Tout mon être a été crucifié avec lui. Ainsi, nous sommes appelés à vivre, non pas selon un critère humain, mais en accord avec ce qui est divin. En nous-mêmes, nous ne possédons rien qui ne soit acceptable à Dieu. Soyons clairs, rien ne peut honorer Dieu en nous. C'est pour ça la croix nous transforme, pour mettre Christ en nous. Dieu ne se plaît qu'à travers son Fils. il veut voir son Fils régner en chacun de nous, régner dans son Église. L'ambition ou l'intérêt tout personnel qui paralyse l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous. Nos ambitions, notre centralité sur nous-mêmes, nos convictions, nos certitudes, souvent sont une entrave à ce travail de la croix en nous. Le fait de considérer que la croix est seulement une solution à nos péchés sans laver, certes une réalité, mais ça nous fait oublier une autre réalité. Celle que toute notre nature est morte, alors c'est Christ qui règne en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. C'est pas dit, ce n'est plus une partie de moi qui vit, c'est pas dit ça comme ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Christ doit avoir la prééminence. Christ doit régner en nous en totalité. Et certes, d'une manière progressive, mais cette progressivité ne peut se faire que si je suis convaincu dès le départ que rien de bien n'habite en moi. Nous sommes si lents à accepter le verdict de la croix sur nos vies naturelles, et moi le premier par mon expérience. C'est très dur. Je peux avoir des convictions intellectuelles, mais dans la pratique, je fais quelque part des sélections, consciemment ou inconsciemment. Nous trouvons humiliant d'accepter le même jugement sur nous-mêmes que celui a été passé dans le monde. Nous sommes d'accord que le monde soit jugé, mais quand on dit « nous sommes jugés » en tant qu'ancienne nature, là, on commence à dire « ah, là, pas ça ». Vous voyez ? Néanmoins, il n'y a pas d'autre base sur une véritable il n'y a pas d'autre base pour une véritable vie spirituelle et pour le témoignage. La croix doit produire la mort en nous afin que la vie de Christ soit libérée. Moins de nous, plus de Christ. Si on voulait que Christ témoigne comme le parfum à travers nous, mais il faut que nous diminuions tout simplement. Pas par nos forces, mais par nos convictions. Je suis tellement convaincu que je dois mourir à moi-même. Et bien, je prie le Seigneur pour qu'il m'aide dans ce cheminement-là. Le chrétien ne peut connaître la bénédiction de la nouvelle vie qu'en cherchant à connaître la signification de la réalité de la crucifixion de la croix. Et comment le chrétien peut savoir la réalité de la croix si la croix n'est pas prêchée ? Lorsque c'est véritablement « je ne vis plus, moi », qu'alors la voie est ouverte pour affirmer « Christ vit en moi ». Je vous renvoie à la lecture de Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, d'abord, je réalise ça. À ce moment-là, c'est Christ qui vit en moi. Je ne peux chercher à manger que si je réalise que j'ai faim. Que Dieu nous aide à réaliser cette fin de lui. Il suffit de lire les Béatitudes. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Si je ne réalise pas que je suis affligé, la consolation réelle ne sera pas à chercher. C'est mon affliction que Dieu permet, qui permet de courir vers la consolation. Si je ne réalise pas ça, la consolation, même si elle m'est donnée, je ne pourrai même pas la savourer, parce qu'elle ne répond pas à une fin que j'ai réalisée. L'issue est glorieuse, mais le chemin qui y mène est le douloureux chemin de la croix. Dernier effet de la croix, je dirais, conséquence de la croix, c'est que la croix exclut et condamne le diable. Ici, nous touchons la cause la plus profonde du scandale. Car le monde et la chair ne sont que les instruments et les armes par lesquels la grande hiérarchie satanique démoniaque maintient son emprise et son existence en tant que force dominatrice dans ce monde. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le nier. En arrivant à la croix, Christ dit, il a dit, « Maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. » Jean, l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 31. Alors que Paul méditait sur la signification profonde de la croix, il dit que par elle, Christ, ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles par la croix. Les dominations ont été battues, condamnées, jugées par la croix. Vous voyez, on revient toujours à la croix. Il est donc parfaitement normal que la grande hiérarchie du mal, appelons Satan, diable, ce que vous voulez, recherche par tous les moyens et utilise toutes les ressources afin de rendre la croix inefficace. Et si on peut exclure la croix de l'Église, le diable a réussi. Le but du diable, c'est minimiser les effets de la croix. Le diable, il va chercher toujours à mettre de côté la croix. Parce que le seul endroit, je dis bien le seul endroit où le diable est vaincu, c'est sur la croix. Nulle part ailleurs. Il est normal qu'il cherchera toujours à mettre de côté la prédication de la croix dans notre vie, voire la minimiser, voire aider à une interprétation erronée de la croix pour minimiser ses effets et son impact dans la foi chrétienne. Par l'imagination des pensées, l'ennemi diluera le message de la croix en imposant des méthodes et l'esprit du monde dans l'Église même. On fait rentrer le monde dans l'Église et c'est une façon aussi que le diable utilise pour minimiser cette réalité de la croix. Le diable asséchera la vitalité spirituelle de l'Église en s'attaquant à la croix. En excitant la chair, le moi et le vieil Adam, il provoquera des divisions. Des divisions même parmi les chrétiens. Des tensions et des destructions ou en mettant en avant les éléments humains dans les aspects artistiques, esthétiques, héroïques. Il aveuglera ceux qui ont besoin de la régénération. Le monde intégrera l'Église. Attention. La réputation, la popularité, le critère mondain du succès sont tous contraires à l'Esprit de Christ. Mais ils sont des instruments, ce sont les instruments que l'ennemi de nos âmes utilise afin de confondre les pensées de beaucoup, et parfois même celles des serviteurs du Seigneur. Même parmi les prédicateurs, ils peuvent être influencés par cette notoriété qui remet en question l'effet de la croix dans leur propre vie, ce qui va déteindre sur leur message. Ainsi, si la croix est annoncée selon la pleine victoire, qui est la sienne sur le monde est vaincu. Et nous pouvons l'annoncer, c'est déjà fait. Si on vous dit, dans le milieu, que ce soit des chrétiens ou pas, que le monde doit être vaincu, vous répétez, Christ a tout accompli. Le monde est vaincu. Et nous l'annonçons devant le diable encore aujourd'hui. Le monde est vaincu. La chair est vaincu et le diable est vaincu. Tout est accompli, les paroles du Seigneur sur la croix. Nous devons nous attendre à ce que les forces du mal fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre un terme à cette proclamation. C'est dangereux ce qu'on est en train de faire. Là, on est en train de provoquer. Nous sommes en train de provoquer, de rappeler au diable ce matin, ensemble, à l'Église, dans le corps de Christ, qu'il est vaincu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne le voyons pas, mais il tremble. Parce qu'on lui dit, tu es vaincu au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est fait. C'est pas nous, c'est Christ. Tu es vaincu. Le monde est vaincu. La chair est vaincue. Et nous le rappelons dans la foi, dans la conviction. Nous le croyons dans la communion avec le Seigneur. Oui, il va falloir nous attendre à ce que les forces du mal fassent tout ce qu'ils en ont dans leur pouvoir pour mettre un terme à cette proclamation. Tout en provoquant toute cause de scandale qui puisse être imputé à la croix. Oui. Il n'est pas surprenant que ce message soit rejeté dans le monde. Il n'est pas surprenant que ce message soit rejeté ou discrédité, puisqu'il est la solution divine au problème de l'homme déchu. La croix condamne le monde. Nous ne nous attendons pas à ce que le monde parle du bien sur la croix. Il y a quelque chose qui ne va pas. La chair, quand elle rejette la croix, c'est normal. Elle cherche que ça, elle ne peut pas plaire à Dieu, donc elle va rejeter. Et le diable, autant. La crucifixion est une brusque fin, car elle révèle la plus totale répudiation divine de tout ce qui appartient à l'ancienne création. Néanmoins, pour le croyant, la croix, telle qu'elle est présentée dans l'Évangile, est la puissance de Dieu pour le salut. La croix est la puissance de Dieu pour le salut. En conclusion, n'oublions pas que l'expérience de la victoire et de l'association en vie avec celui qui est assis sur le trône dans la gloire sont les nôtres. Aussi longtemps que nous sommes un avec la réalité de la croix telle qu'elle est présentée dans la parole de Dieu. Dès que nous dévions, nous ne sommes plus sur l'axe, le chemin, la vérité et la vie. Dans la parole de Dieu, la croix est centrale. La croix, ce n'est pas une représentation, c'est un instrument de vie que nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes, mais seulement que nous ayons cette conviction au fond de nous, que pour être chrétien véritable, préparant l'Église, l'épouse qui a préparation pour rencontrer son Fils, il faut que cette croix fasse son œuvre en nous pour que Dieu nous prépare pour cette rencontre. Comme le résume un passage dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, je termine par cette lecture, par ce passage dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Eux, parle de nous, eux, l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Amen.